Toutes nos sources sont en lui. Merci Seigneur pour sa parole. Merci pour Fatima. Merci pour Mohamed. Merci pour cet homme qui a fondu devant Luc 15 la semaine passée parce qu'il a mieux compris l'accueil et le pardon de Dieu. Merci parce que nous pouvons ouvrir la Bible encore ce matin. Et je vous invite à continuer notre lecture de la lettre de Paul aux Philippiens. Nous en sommes au chapitre 1, verset 27. La semaine dernière, Jean-Marc a médité les premiers versets du chapitre 2. Donc c'est très bien parce que la section est longue. Et ça m'a enlevé une partie de cette section. Philippiens 1, verset 27 à 2:11, mini-révision. Nous avons déjà vu le début de la lettre, où comme très régulièrement l'apôtre Paul exprime sa joie, nous rappelle que tout est grâce et nous invite à être en marche dans la prière en particulier et en grandissant dans l'amour. Dans le paragraphe suivant, nous avons vu comment l'apôtre Paul rappelle la réalité des épreuves externes et internes avec la réponse d'une vie centrée sur Christ. La semaine dernière, appelle à l'harmonie, à l'unité en tant que chrétien et chrétienne. Et ce matin, des vies transformées par le Christ et à sa ressemblance. Philippiens 1, verset 27. Vivez comme la bonne nouvelle de Christ le demande. Si je viens, je vous verrai, et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors je saurai que vous restez solides, très unis entre vous, et que vous luttez ensemble et d'un même cœur pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. Je saurai aussi que vous n'avez pas peur de vos ennemis. Pour eux, c'est la preuve qu'ils sont perdus. Pour vous, c'est la preuve que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. C'est lui qui nous a donné non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. En effet, nous luttons ensemble, vous et moi. Autrefois, j'ai lutté sous vos yeux et je continue à lutter. Vous le savez. Le Christ vous rend fort. Son amour vous donne du courage. Et son esprit vous unit. Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours et pourtant. Cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme des hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ, c'est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Des vies transformées. Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Une fois de plus, la Bible est très concrète. Loin des théories nuageuses, déconnectées de la réalité. L'apôtre Paul vient de parler de ses épreuves liées à l'annonce de l'Évangile. Il va parler de la vie de Jésus-Christ qui s'est abaissé pour venir jusqu'à nous, pour mourir à notre place. Et on a un de ses cris du cœur habituels, « Vivez !» Oui, la vie de chrétien, la vie de disciple, c'est une question de vécu, de conduite, de comportement. Et ceci en tout temps, devant Dieu, pas seulement devant moi, dit Paul, si je viens, si je ne viens pas. Je paraphrase. Si je vous vois au culte, si je ne vous vois pas au culte. Si je suis à la maison, si je suis au travail, si je suis à l'école. Si je suis avec des gens connus ou pas. Quelquefois, ça change pas mal. Et quelquefois, à tort, notre comportement. L'apôtre Paul dit, en tout temps, comportez-vous, vivez, comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Pour Dieu et devant Dieu, et bien évidemment, concrètement, c'est-à-dire devant les hommes. Unis entre vous, luttant ensemble et devant tous. Nous sommes devant l'implication liée à la foi, à l'écoute de l'Évangile, que la Bible appelle, selon les traductions, la sanctification, que j'évoque souvent sous le terme de cohérence, le rêve de vie de plus en plus cohérente. On peut parler encore plus simplement de mise en pratique. La vie chrétienne, c'est une question de mise en pratique. C'est une vie chrétienne. Et si je regarde la semaine passée, qu'est-ce que je dis à Dieu ? Pas pour culpabiliser, mais pour comprendre à nouveau, pour entendre l'apôtre Paul qui nous dit qu'il s'agit de vivre, pas de dire, pas d'expliquer, pas d'être dans une théorie qui tient bien la route. Il s'agit de vivre. Comment est-ce que j'ai vécu la semaine passée ? Et la vraie bonne nouvelle, c'est que justement le Christ veut nous aider, veut intervenir, veut agir, et c'est lui qui nous transforme. Deuxième point que je relève dans ce paragraphe, c'est le Christ, dit l'apôtre Paul, qui vous rend fort. Merveilleuse promesse, c'est lui qui équipe. Par son amour et par son esprit. C'est le Christ qui rend fort. Comment ? Parce que nous l'écoutons, parce qu'il agit en nous, parce que nous le connaissons, parce que nous le prions. Il nous transforme. Son amour donne du courage. Parce qu'il nous aime, nous sommes portés et nous pouvons continuer. Nous sommes accueillis, nous sommes pardonnés, il nous relève. Son amour donne du courage. Son esprit nous unit. Il nous éclaire, il nous purifie et il nous unit. Il fait de nous une famille. C'est le Christ qui nous rend fort. Et heureusement qu'il est celui qui agit, parce que le chemin peut être rude. J'ai relevé quelques mots qui nous disent que le chemin peut être rude. Il est question d'ennemis, de souffrir, de lutter, de lutter, de lutter, d'avoir du courage. L'apôtre Paul parle de la marche chrétienne. Le chemin peut être rude, mais la merveilleuse bonne nouvelle, c'est que c'est le Christ qui nous rend fort. Et qu'il ne s'agit pas de se cramponner, d'essayer d'apprendre par les uns par les autres à devenir plus résistants par nous-mêmes, d'être de ceux qui savent gérer les choses et qui savent surmonter les problèmes. Tant qu'on dit les choses comme cela, ça ne marchera pas. Il nous faut absolument ajouter à toutes ces phrases « avec le Christ ». Oui, j'ai ma part. Oui, je dois apprendre à surmonter les difficultés. Oui, je dois accepter qu'il me transforme dans mon caractère. Et je dois me repentir devant ce que j'ai dit ou fait de travers, ce qui est sorti trop vite de ma bouche, ce qui a bougé trop vite dans mon corps, ce qui a touché l'ordre. Oui, je dois me repentir pour tout ça. Mais jamais sans l'aide du Seigneur, si je veux vraiment progresser. Troisièmement, l'exemple du Christ. Nous retrouvons toujours la même exhortation chapitre 2, verset 5. « Conduisez-vous !» Mais avec cet ajout important, cette précision, comme ceux qui sont unis au Christ. Ancienne version, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Version chantée, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Par ton esprit, on le retrouve, tant mieux, il est dans le chant, il est au verset 1. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. » Donc on retrouve cette exhortation de base à la sanctification, à la cohérence, à la mise en pratique, à des vies qui sont transformées par l'Évangile, par le Christ lui-même. On ne peut pas se contenter de ne pas être cohérent dans nos vies. Il nous faut progresser et il nous faut vivre en étant toujours plus conformes à ce que Dieu veut que nous soyons. Pas comme si un carcan nous tombait dessus, pas comme si nous avions des examens à passer, et ce qui conduirait à une forme de légalisme religieux, mais parce que la bonne nouvelle veut que nous soyons ce que Dieu veut nous permettre d'être, et parce que c'est tellement mieux de vivre l'Évangile que de simplement nous laisser un tout petit peu toucher par lui. Ayons soif d'être profondément, complètement transformés par lui. Donc nous voulons ressembler à Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, le Christ ? Il n'a pas cherché à, nous dit le texte. Il n'a pas été piloté par l'amour du pouvoir, qui ne touche aucun d'entre nous, par l'orgueil de la position, qui ne touche aucun d'entre nous, par le poids des regards extérieurs, qui ne touche aucun d'entre nous. Sauf que tout ce que je viens de dire est faux. Parce que ça nous touche profondément, tout cela. Le Christ, lui, n'a pas regardé à ce qui pollue, perturbe notre comportement, nos vies. Mais il a été complètement orienté par la confiance en son Père et la soumission du serviteur. Oui, il s'est fait serviteur, je reviens au texte. Il a accepté de devenir homme, il s'est fait homme, il est venu tout près de nous, il est venu tellement près de nous qu'il est devenu comme nous, il a voulu être homme parmi les hommes. Ensuite, il a été prêt à souffrir, nous rappelle l'apôtre Paul, à mourir, à être extrêmement malmené, maltraité. Nous sommes devant l'obéissance extrême de celui qui est notre chef de file. Et l'apôtre Paul termine en citant ce qui semble bien être un cantique de l'époque, qu'il a été élevé par Dieu. Dieu est là, Dieu prend soin, Dieu reste le grand Dieu souverain. Et la grande injustice qu'a subie le seul homme juste qui a été condamné n'est pas le dernier mot de l'histoire de celui qui s'est fait homme, de son histoire sur terre. Le dernier mot de son histoire sur terre, c'est sa résurrection. Et celui qui est notre modèle, et un modèle nous modèle, un exemple nous transforme, on peut penser à des personnes qui ont eu un impact fort dans notre vie, et comprenons à quel point le modèle du Christ peut nous modeler. Quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qu'on reconnaît comme étant sur la bonne voie, nous modèle. Et celui qui nous modèle, nous dit l'apôtre Paul, a été parfaitement obéissant, s'est abaissé et a été merveilleusement élevé. Alors on ne va pas vivre les 10 premiers versets à cause du 11. Mais quand même, le verset 11 nous dit, 9, 10, 11, que Dieu est celui qui nous tient dans sa main, et celui qui est le premier, le chef de file, celui qui a été ressuscité le premier pour que nous sachions que Dieu tient ses promesses, c'est Jésus-Christ. Mais cette résurrection nous attend. et la victoire de Jésus-Christ compte pour nous, et la marche de Jésus-Christ nous prouve ce que Dieu nous réserve. Il n'a pas cherché à. Il s'est fait serviteur. Il a été prêt à souffrir. Dieu l'a élevé et l'a rendu victorieux. C'est ce que Dieu veut pour nous. En conclusion, réentendons l'appel à mettre en pratique l'Évangile. Vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Prenons une minute pour réfléchir à ce que ça veut dire de très concret dans notre vie. Une ou deux choses qu'on aimerait être au bénéfice de progrès clairs qu'on peut demander à Dieu maintenant. Parce qu'il ne faut pas qu'on patine. Il faut qu'on avance. Et il faut qu'on vive comme le Christ veut qu'on vive. Il faut qu'on se comporte bien. Ne faisons surtout pas fausse route dans le légalisme et regardons à Christ. Lui seul peut nous rendre forts. Son amour nous donne du courage. Son esprit nous unit. Sa loi parfaite et bonne n'a pas pu nous transformer. Mais le Christ nous rend fort. Son amour nous donne du courage et son esprit nous transforme de l'intérieur et nous unit. Alors regardons-le. Pour cela, il faut prendre du temps. Il faut l'écouter. Il faut lire sa parole avec attention. Il faut en parler avec nos frères, nos sœurs pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et puis nous pourrons être de plus en plus transformés, plus nous le connaîtrons. Et un jour, nous le connaîtrons tellement bien, nous dit l'apôtre Jean, que nous serons comme il est, parce que nous le verrons. Donc le principe est clair, plus je le connais, plus ma connaissance du Christ me transforme. Alors il y a des instituts bibliques, clin d'œil, il y a des études bibliques, il y a des temps de recueillement, il y a des cultes personnels. Il nous faut le connaître pour être transformé à son image. Dernier point qui est là. Nous serons conduits en le connaissant à faire ce qui est annoncé à la fin de ce cantique. Tous se prosterneront devant lui. Et en méditant ce texte, dans les jours passés, j'ai vraiment demandé au Seigneur de nous accorder la grâce de mieux et plus l'adorer maintenant. Un jour, nous l'adorerons parfaitement. Un jour, tous reconnaîtront qu'il est le Seigneur. Mais puissions-nous aujourd'hui, avec le niveau de connaissance de Jésus-Christ qui est le nôtre, avec les épreuves qui sont les nôtres, avec les limites qui sont les nôtres, puissions-nous l'adorer de façon plus forte, plus juste, en bénéficiant d'une nouvelle révélation de celui qui est Dieu et qui est venu jusqu'à nous. Amen. Amen. Je vous invite à chanter Philippiens 2. De son trône de clarté, il est venu, il est descendu. Jésus-Christ est Seigneur. Et je vous invite à vous lever dans l'adoration, en chantant ce dernier cantique.